إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue donc la lecture du livre de l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala sur la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous en sommes arrivés au chapitre sur la prosternation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans son noble livre lorsqu'il a dit « Ya ayyuhalladina amanu rka'u wasjudu » « Oh vous qui avez cru, inclinez-vous et prosternez-vous ». La prosternation est donc un des piliers de la prière. En effet, elle fait partie intégrante de la prière et la prière ne peut pas être valide sans elle. Le Cheikh rahimahullah ta'ala a donc dit ici « Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Allahu Akbar » et s'abaissait pour se prosterner. Donc après s'être relevé de l'inclination, s'être tenu bien droit et avoir observé un temps d'immobilité dans cette position et avoir prononcé les formules de rappel légiférées. Il disait « Allahu Akbar » puis se prosterner. Et ce takbir, il fait partie des takbirs de transition, takbiratul intiqal. Et ce takbir, il est obligatoire. Il dit ensuite, rahimahullah, il a ordonné à celui qui avait mal fait sa prière de le faire en disant, la prière d'une personne n'est valable que si elle dit, sami'allahu liman hamida, avant de revenir debout, puis qu'elle dit, Allahu Akbar, et se prosterne jusqu'à ce que ses articulations s'immobilisent. Donc on voit à travers cela l'obligation pour le prieur de prononcer le takbir et de se prosterner. Ensuite il dit, rahimahullah, lorsqu'il voulait se prosterner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Allahu Akbar » et écartait les bras de ses côtes avant de le faire. Il levait parfois les mains avant de se prosterner. Donc le fait de lever les mains dans cette position, cela est recommandé seulement de temps à autre, car la majorité du temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait pas. Ensuite, il a dit, rahimahullah ta'ala, posez les mains en premier avant de se prosterner. Donc, dans ce chapitre, le shaykh, rahimahullah ta'ala, va nous expliquer la manière de se prosterner. Comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, accomplissait-il cette prosternation? Il dit, rahimahullah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, posait les mains à terre avant les genoux. Il a donné l'ordre de le faire lorsque vous vous prosternez. Ne vous agenouillez pas comme le fait le chameau, mais posez les mains à terre avant les genoux. On voit donc à travers ces hadiths que la sunna, lorsque tu te prosternes, est de poser les mains avant les genoux. Et cette question, comme vous le savez, elle est sujette à divergence entre les gens de science. D'autres ont dit que ce qui est légiféré est de poser les genoux avant les mains. Et cette question, elle fait partie des questions au sujet desquelles la divergence et l'effort d'interprétation sont admis et qui ne doivent pas être cause de division entre les musulmans. Ensuite, il dit, rahimahullah, d'autre part, il disait, les mains se prosternent comme se prosterne le visage. Donc, lorsque vous voulez poser votre face contre terre, posez les mains, et lorsque vous la relevez, relevez les mains. Il dit, rahimahullah, il s'appuyait sur la paume des mains et il les tendait bien ouvertes. Il joignait les doigts et les dirigeait vers la qibla. Donc la manière correcte de se prosterner, c'est de poser les paumes des mains au sol. C'est-à-dire que tu ne poses pas le dos de la main, mais tu poses les paumes de tes mains à plat au sol. Lorsqu'il dit bien ouverte, c'est-à-dire qu'il n'avait pas la main pliée. On voit certaines personnes, ils posent leur main, mais ils ne la posent pas entièrement au sol. Ils la relèvent légèrement du sol. Mais ce qui est correct, c'est de poser les mains bien ouvertes, que tes paumes de main soient complètement posées au sol. Il joignait les doigts, contrairement au ruku'a. On a vu lors du chapitre sur l'inclinaison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'inclinait, il écartait ses doigts, il attrapait ses genoux. Ici, pour la prosternation, c'est l'inverse. Il serrait les doigts les uns contre les autres. Comment? En les dirigeant, en les orientant vers la qibla. Il tenait donc ses paumes de main droites sur le sol, les doigts serrés les uns aux autres, en les tenant droits, orientés vers la qibla. Ensuite, il dit, rahimahullah, il posait les mains à terre à hauteur des épaules et parfois à hauteur des oreilles. Donc ici, ce hadith, il nous indique l'endroit où tu dois poser tes mains. Soit à hauteur des épaules, soit à hauteur des oreilles. Et la sunna est de mettre en pratique ces deux manières qui sont légiférées de façon aléatoire. Ensuite, il dit, rahimahullah, en même temps, son front et son nez touchaient le sol. Donc ce hadith, il nous prouve que le nez, il doit également être posé sur le sol. Et non pas comme le font certaines personnes qui se prosternent seulement sur leur front, en relevant leur nez qui ne touche pas le sol. Et le shir, rahimahullah ta'ala, il a mentionné ici plusieurs hadiths qui nous prouvent l'obligation que le nez soit posé sur le sol lors de la prosternation. Il dit, rahimahullah, il a dit à celui qui avait mal accompli sa prière, « Lorsque tu te prosternes, fais que tous tes membres touchent le sol. Fais que tous tes membres se stabilisent sur le sol. » C'est-à-dire les membres de la prosternation, comme on va le voir dans les hadiths suivants. Il dit, rahimahullah, dans une autre version, « Lorsque tu te prosternes, ton visage et tes mains doivent toucher le sol et restent ainsi jusqu'à ce que chacun de tes os s'immobilise dans cette position. » C'est-à-dire que le visage et les mains, ils doivent se stabiliser ainsi au sol durant la prosternation. Ensuite, il dit, rahimahullah, il disait encore, « Pas de prière pour celui qui ne touche pas le sol avec son nez, comme il le touche avec son front. » Car le nez et le front, en réalité, ils sont comme un seul membre. C'est pour cela qu'il est obligatoire pour le prieur, lorsqu'il se prosterne, de les poser tous deux sur le sol. Il pose son nez et son front sur le sol, il ne se prosterne pas seulement sur le front comme le font certains prieurs. Il dit ensuite, rahimahullah, ses genoux et les pointes de ses pieds touchaient également le sol. C'est-à-dire qu'ils étaient également stabilisés sur le sol. Ses genoux et les pointes de ses pieds. Il va nous décrire la manière de tenir les pieds. Il dit, rahimahullah, il dirigeait ses pieds et la pointe de ses orteils vers la qibla. Il collait ses talons l'un à l'autre, tenait ses pieds perpendiculaires au sol, les orteils pliés, et il a donné l'ordre de le faire. Donc lorsque tu es prosterné, tu as ton front et ton nez qui sont posés au sol, ainsi que tes mains, les paumes sur le sol, les doigts serrés les uns aux autres, en direction de la qibla, à hauteur des épaules, ou à hauteur des oreilles. Tu as également tes genoux qui sont posés au sol, mais aussi tes pieds. Les orteils sont posés au sol, et ils sont pliés, de sorte à être en direction de la qibla. Et les talons sont collés l'un à l'autre, c'est-à-dire que des pieds sont perpendiculaires au sol, avec les orteils pliés, qui sont en direction de la qibla. On voit donc à travers cela, l'erreur que font certaines personnes, qui posent la face apparente de leurs pieds sur le sol, en ayant ainsi leurs orteils dans le sens inverse de la qibla. Et ceci s'oppose à ce qu'a légiféré le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, rahimahullah, ce sont les sept membres sur lesquels le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se prosternait. Les deux mains, les deux genoux, les deux pieds, le front et le nez. Donc le front et le nez, ils ne font qu'un seul membre. Il dit, rahimahullah, il comptait le front et le nez comme un seul membre. Car il a dit, on m'a ordonné de me prosterner, dans une autre version, on nous a ordonné de nous prosterner sur cet os, sur le front, et il a indiqué son nez en faisant passer sa main dessus. Les deux mains, les deux genoux et les pointes des pieds, et de ne pas retenir les vêtements ou les cheveux. Et le traducteur a rajouté entre parenthèses, avec les mains ou avec autre que cela, comme on va le voir dans les hadiths suivants. Donc c'est sur ces sept membres qu'il est obligatoire pour le prieur de se prosterner. Et si tu ne te prosternes pas ainsi, en posant ces sept membres au sol, alors ta prosternation n'est pas valide. Ce qui veut dire que ta prière n'est pas valide. Si par exemple une personne se prosterne en levant un pied du sol, ou même les deux, comme on peut l'observer parfois chez certains prieurs, qui se prosternent et qui lèvent leurs pieds, alors cette prosternation, elle n'est pas valide, wallahu al-musta'an. Mais il est indispensable que les sept membres mentionnés dans le hadith soient posés au sol durant la prosternation. Et on voit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de retenir les vêtements ou les cheveux. Le cheikh rahimahullah ta'ala, il dit en note de bas de page, il s'agit ici de retenir les vêtements ou les cheveux et les empêcher de traîner en les tenant avec les mains dans l'inclination ou la prosternation. Comme le font certaines personnes lorsqu'ils se prosternent ou qu'ils s'inclinent et qu'ils portent par exemple une rutra, un shimar, et qu'ils le placent derrière leur dos. Lorsqu'ils s'inclinent, ils ne laissent pas sa rutra tomber. Lorsqu'ils se prosternent aussi, ils la relèvent et la placent derrière son dos, l'empêchant ainsi de toucher le sol. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit cela. Il dit ensuite, rahimahullah, toujours dans la note de bas de page, à la page suivante, je dis, Cette interdiction ne concerne pas seulement le moment de la prière. Si une personne retient ses cheveux et ses vêtements avant la prière, puis entre en prière, elle tombe aussi sous le coup de l'interdiction, selon l'avis de la majorité des savants. Ceci est appuyé par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier avec les cheveux tressés, comme nous le verrons plus loin. Donc la majorité des gens de science ont considéré que même si la personne, par exemple, avait attaché ses cheveux avant la prière, ou alors avait placé sa routra derrière son dos avant la prière, alors il lui incombe de la remettre correctement au moment de prier afin de la laisser tomber librement sur le sol. Et ceci est l'avis de la majorité des gens de science, comme l'a mentionné l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala ici, contrairement à l'imam Malik qui a considéré que l'interdiction concerne seulement celui qui le fait volontairement pour la prière. Ensuite, il dit rahimahullah, il disait aussi, lorsqu'un serviteur se prosterne, sept membres se prosternent avec lui. Sa face, c'est-à-dire le front et le nez, ses deux mains, c'est-à-dire les paumes de ses mains, ses deux genoux et ses deux pieds, c'est-à-dire l'extrémité de ses pieds, comme on l'a mentionné dans le hadith précédent. Il a dit à propos d'un homme qui priait avec les cheveux tressés derrière la tête, « Celui-ci est semblable à quelqu'un qui prie les mains liées. » Donc le cheikh rahimahullah ta'ala, il dit, dans la note 3 de bas de page, Ibn al-Athir a dit, « Le sens de ce hadith est que si la personne ne retient pas ses cheveux seraient tombés sur le sol au moment de la prosternation. Elle obtient une récompense supplémentaire pour s'être prosternée avec ses cheveux. Par contre, si ses cheveux sont tressés ou ses cheveux sont attachés, cette personne, d'une certaine manière, ne se sera pas prosternée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a comparé à quelqu'un qui a les mains liées, car cette personne ne pourra pas poser les mains sur le sol au moment de la prosternation. Il dit, rahimahullah, ensuite, il semble que cette interdiction ne concerne que les hommes et non pas les femmes, comme l'a rapporté Shawkani et Ibn al-Arabi. Donc on voit dans ce hadith que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à comparer celui qui prie les cheveux attachés à celui qui a les mains liées. Et comme on l'a vu dans l'explication, celui qui a les mains liées et qui souhaite se prosterner, il ne va pas pouvoir poser ses mains au sol. Donc de la même manière, celui qui attache ses cheveux, celui qui a les cheveux longs et qui les attache lors de la prière, c'est comme s'il empêchait ses cheveux de se poser sur le sol. De la même manière que celui qui a les mains liées ne pourra pas poser ses mains au sol. On tire donc de cela que celui qui a des cheveux, alors il lui convient de ne pas les attacher au moment de la prière. Toutefois, j'attire votre attention que les gens de science ont mentionné qu'il ne fait pas partie de la sunna pour l'homme d'avoir les cheveux longs. Mais les gens de science ont mentionné que cela revient à l'usage dans le pays où la personne vit. Si les hommes ont pour habitude d'avoir les cheveux longs, comme c'était le cas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de mal à laisser ses cheveux longs dans les limites légiférées. Mais si cela est contraire à l'usage, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de l'habitude des hommes d'avoir les cheveux longs, et qu'au contraire, cela peut être une des caractéristiques des personnes qui ne sont pas sur la piété, des personnes qui ne sont pas sur la voie de la droiture, et ainsi de suite. Alors dans ce cas-là, il n'est pas légiféré pour l'homme de laisser pousser ses cheveux. Tel est l'avis de l'imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, sont le sens résumé de sa parole. Donc revenons au sujet ici, dans le cas où l'homme a les cheveux longs, il ne doit pas les attacher pour la prière, mais il doit les détacher et les laisser tomber librement sur le sol. Et le cheikh rahimahullah ta'ala nous donne cette précision importante que cette interdiction, elle est spécifique aux hommes, mais elle ne concerne pas les femmes. Car les femmes, les cheveux, ils font partie de leur aura, et il n'y a pas de doute qu'il est plus pratique pour elles de les attacher lors de la prière, afin que ceux-ci ne se dévoilent pas au cours de l'inclinaison ou de la prosternation. Ensuite, il dit, rahimahullah, il a dit aussi, elle, sa tresse, c'est-à-dire à l'homme qui a attaché ses cheveux, elle est le siège de Satan. Donc ceci nous confirme le fait que l'homme ne doit pas prier avec les cheveux attachés. D'autre part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étendait pas les bras sur le sol, mais il les élevait au-dessus du sol et les écartait de ses côtes au point que de derrière on pouvait apercevoir la blancheur de ses aisselles et au point qu'un agneau aurait pu passer sous ses bras. Donc il fait partie de la sunna lors de la prosternation que tu écartes tes coudes de tes côtes. Mais comme pour l'inclination, ceci est légiféré à condition qu'il n'y a pas de nuisance, c'est-à-dire lors de la prière en commun. Il se peut qu'en écartant tes coudes, tu gênes tes voisins. Donc dans ce cas-là, il n'est pas légiféré pour toi d'écarter tes coudes. Car comme on l'a dit précédemment, on ne va pas mettre en pratique une sunna pour au final tomber dans un interdit qui est de nuire à tes frères qui sont en prière à côté de toi. Il dit ensuite, rahimahullah, il exagérait tellement cet écartement qu'un des compagnons a dit, nous avions vraiment pitié pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en voyant la manière dont il écartait les bras de ses côtes pendant qu'il se prosternait. Donc, ce qui a été traduit par « nous avions vraiment pitié », c'est « nous avions vraiment de la compassion pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ». Ensuite, il a dit, rahimahullah, il a donné l'ordre de le faire. En effet, il disait « lorsque tu te prosternes, pose les paumes de tes mains sur le sol et remonte les coudes ». Il disait encore « tenez-vous droit dans la prosternation et n'étalez pas vos avant-bras sur le sol comme le fait le chien ». Et dans une autre version et un autre hadith, n'étendez pas vos avant-bras sur le sol à la manière du chien. Il disait par ailleurs, ne pose pas tes avant-bras sur le sol à la manière d'une bête féroce. Appuie-toi sur les paumes de tes mains et écarte les bras de tes côtes, car quand tu fais cela, tous tes membres se prosternent avec toi. Il ne fait donc pas partie de la sunna, lorsque tu te prosternes, de poser les coudes au sol. Au contraire, cela est interdit, comme le démontrent les textes clairs et explicites de ces hadiths que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnés. Car en faisant cela, en pesant les coudes sur le sol, la position de l'homme ressemblerait à la position du chien lorsqu'il se couche. Et comme on l'a vu dans des hadiths précédents, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de nous assimiler aux animaux et ce dans de nombreuses postures de la prière. Parmi celles-ci, la prosternation. Le fait de ne pas poser ses coudes, ses avant-bras, au sol, comme le fait le chien. Ensuite, il dit, rahimahullah, l'obligation de rester immobile un moment en prosternation. Et ceci est un pilier de la prière. Il dit, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait d'accomplir parfaitement l'inclination et la prosternation. Et il comparait celui qui ne le faisait pas à une personne affamée qui mangerait une date ou deux, mais qui n'en serait pas rassasié. Il disait également de lui, c'est le pire des voleurs. Il jugeait que la prière de celui qui ne tenait pas son dos droit dans l'inclination ou la prosternation n'était pas valable, comme nous l'avons mentionné en détail dans le chapitre concernant l'inclination. Il a ordonné à celui qui avait mal accompli sa prière de rester un moment immobile en prosternation, comme cela a été mentionné au début du chapitre. Donc ce sujet-là, on l'a développé lors du chapitre sur l'inclination. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, y a mentionné de nombreux hadiths nous démontrant qu'il est obligatoire pour le prieur d'observer un temps d'immobilité dans chacune des positions de la prière qui constituent des piliers de celle-ci. Et parmi ces positions, il y a la prosternation. Donc lorsque tu te prosternes, tu poses au sol les sept membres mentionnés dans le hadith et tu observes un temps d'immobilité. Et ce temps d'immobilité, c'est un pilier de la prière. Celui qui ne fait pas cela, sa prière n'est pas valide. Celui qui se contente de toucher le sol avec son front et de relever immédiatement la tête, celui-ci ne s'est pas prosterné en réalité. Mais sa prière, elle est semblable à quoi? Elle est semblable à celle du coq qui picore, comme on l'a vu dans le chapitre de l'inclination. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a même indiqué que celui qui fait cela, sa prière, elle ne peut pas être valide. Quant à sa parole, il comparait celui qui ne le faisait pas à une personne affamée qui mangerait une date ou deux mais qui n'en serait pas rassasiée. On a déjà mentionné la parole d'Ibn Rajab expliquant cela. Ce qui est visé par cela, c'est que la prière, c'est la nourriture du cœur. Donc celui qui prie, mais qui ne parfait pas son inclination, sa prosternation et ainsi de suite, mais qui se prosterne et s'incline à la manière d'un coq qui picore, alors cette prière, elle ne nourrit pas son cœur, car c'est une prière qui est invalide. De la même manière que celui qui est affamé et qui mange une ou deux dattes ne sera pas rassasié avec ses dattes, mais elles ne lui seront certainement d'aucun profit. Donc ceci nous confirme l'importance pour le musulman de faire preuve de quiétude dans sa prière, de ne pas s'empresser, mais d'observer un temps d'immobilité dans chacun de ses piliers. Et le temps minimum que tu dois rester en prosternation, c'est le temps nécessaire à prononcer la formule de rappel légiférée dans cette position. Et en ce qui concerne la prosternation, c'est le fait de dire « Subhana Rabbi al-A'la ». Donc si tu stabilises tes membres en prosternation, une fois que tu es bien prosterné, tu prononces cette parole « Subhana Rabbi al-A'la » tout en étant immobile avec tes 7 membres posés au sol, alors ta prosternation est valide, inshallah ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, les invocations à dire pendant la prosternation, c'est-à-dire les formules de rappel, légiférées, à dire au moment de la prosternation. Il dit, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait tout au long de ce pilier différentes sortes d'invocations et de rappels, parfois ceci et parfois cela. Donc la première qu'il a mentionnée, c'est celle que l'on connaît tous, Subhan Rabbi al-A'la, 3 fois. Et parfois, il répétait cette invocation plus que 3 fois. Donc comme pour l'inclination, le minimum obligatoire, c'est de prononcer cette formule 1 fois, en disant Subhan Rabbi al-A'la. Le minimum de la perfection, c'est de la prononcer 3 fois. Et le mieux est de la prononcer 10 fois, ou plus encore, comme l'auteur, rahimahullah ta'ala, l'a mentionné. Il a donc dit, rahimahullah, 1 fois, il l'a tellement répété pendant la prière de nuit que la durée de sa prosternation a été aussi longue que le temps qu'il a passé debout. J'attire juste votre attention ici sur un petit mot qu'il manque dans la traduction lorsqu'il a traduit. 1 fois, il l'a tellement répété pendant la prière de nuit que la durée de sa prosternation a été presque aussi longue que le temps qu'il a passé debout. Il manque le mot presque entre été et aussi. Alors qu'il avait lu 3 des plus longues sourates du Coran, la vache, les femmes et la famille de Imran, il interrompait sa récitation pour faire des invocations et des demandes de pardon auprès d'Allah, comme nous l'avons mentionné précédemment dans le chapitre de la prière de nuit. Donc on a déjà mentionné ce sujet en détail, on ne va pas revenir dessus ici. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus il restait longtemps debout lors de la récitation, plus il allongeait l'inclination, la position debout après l'inclination, la prosternation et la station assise entre les 2 prosternations. Et donc lorsqu'il restait longtemps prosterné, il prononçait cette parole de manière répétitive. Subhan Rabbi al-A'la. Subhan Rabbi al-A'la. Subhan Rabbi al-A'la. Et ainsi de suite. Ensuite, il a mentionné d'autres formules de rappel comme Subhan Rabbi al-A'la wa bihamdihi. Puis il a mentionné un certain nombre d'autres formules de rappel qu'il est légiféré de dire au moment de la prosternation. Et je vous laisserai les lire et je vous encourage, inshallah ta'ala, à les mémoriser autant que possible. Il est donc légiféré ensuite, après avoir dit Subhan Rabbi al-A'la, de compléter par les formules de rappel que le shir rahimahullah ta'ala a mentionné. Et ce qui est légiféré également lors de la prosternation, c'est de multiplier les invocations. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith authentique, quant à la prosternation, alors faites-y des efforts dans l'invocation. Et il dit dans un autre hadith, le moment où le serviteur est le plus proche de son seigneur, c'est lors de la prosternation. C'est donc une occasion immense pour le serviteur lorsqu'il est prosterné, d'adresser ses demandes à Allah subhanahu wa ta'ala et de multiplier les invocations. Et nombre parmi nous sont insouciants et distraits de cela. Nombreux sont ceux qui, lorsqu'ils se prosternent, s'empressent de relever leur tête après avoir mentionné la formule de rappel obligatoire. Et il n'y a pas de doute que lorsque tu pries ainsi, tu te prives toi-même d'un grand bien. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'informe que cette position, c'est celle dans laquelle tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il t'a ordonné de multiplier les invocations lors de cette position. Et il n'y a pas de doute que tu as besoin de nombreuses choses. Parmi ces choses, tu as besoin d'être guidé sur la voie droite. Tu as besoin d'être raffermi sur cette voie. Tu as besoin d'être orienté. Tu as besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes nombreux péchés. Et ainsi de suite. Également parmi tes besoins mondains. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde ta subsistance. Allah subhanahu wa ta'ala te facilite tes affaires, et ainsi de suite. Donc lors de cette prosternation, c'est le moment d'adresser tes demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moment où tu es le plus proche de lui. Il convient donc au serviteur de faire preuve d'humilité lorsqu'il est dans cette position, et d'adresser ses demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout en te rappelant que le fait d'adresser ses demandes, bien que cela soit dans ton intérêt à toi, c'est une adoration pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala te récompense. Ensuite, il a dit, rahimahullah ta'ala, l'interdiction de réciter le Coran pendant la prosternation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait la lecture du Coran durant l'inclination et la prosternation. Il a donné l'ordre de multiplier les invocations avec ferveur et insistance dans cette position, qui est un pilier, comme cela a déjà été mentionné dans le chapitre de l'inclination. Il disait, le serviteur n'est jamais aussi proche de son Seigneur que lorsqu'il est en prosternation. Implorez-y donc Allah abondamment. C'est-à-dire faites des efforts dans l'invocation lorsque vous êtes en prosternation. Car comme on a dit, c'est une opportunité pour adresser tes demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'est pas permis de réciter le Coran ni dans l'inclination, ni dans la prosternation. Toutefois, il y a une question qui se pose ici. Ai-je le droit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en utilisant certains versets comprenant des invocations, comme par exemple en disant « Ihdina s-sirat al-mustaqim » ou alors « Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adab an-nar » et ainsi de suite parmi les versets comprenant des invocations. La réponse est que cela est permis. Car ce qui est visé, ce n'est pas la récitation du Coran, mais ce qui est visé, c'est l'invocation, et comme il est venu dans le hadith, les actes valent selon leurs intentions. On va donc s'arrêter là pour ce soir, et on continuera la lecture dans le cours de demain, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.